l'Association française d'urologie vous présente Podcast AFU, le podcast médical de l'AFU.
Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel d'AstraZeneca. Cancer de la vessie, facteur de risque, prise en charge actuelle et qualité de vie. Point de vue du patient et celui du chirurgien. Dr Mathieu Roumidier est chirurgien urologue dans le département d'urologie de la clinique Pasteur à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
Bonjour Jean-Étienne, ici Mathieu Roumidier, urologue à la clinique Pasteur à Toulouse.
Oui, bonjour.
Je suis en compagnie donc de Jean-Étienne, un de mes patients, pour discuter un peu du parcours du cancer de la vessie, de la tumeur infiltrante le muscle. On est au cours du mois de mai, qui est le mois de sensibilisation au cancer urothélio et au cancer de la vessie. Merci beaucoup Jean-Étienne d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter brièvement ce que vous avez fait dans la vie, quel âge avez-vous, et qu'on puisse un peu se projeter dans notre discussion.
Pas de problème. Alors, donc, j'ai 69 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont grands aujourd'hui. Je suis à la retraite depuis 4 ans et mon parcours professionnel a été essentiellement dans l'industrie. J'ai fait à peu près 40 ans dans l'industrie, j'ai fait 10 ans d'électronucléaire, j'ai fait 15 ans de carte à puce avec Roland Moreno, qui est l'inventeur de la carte à puce. Donc, j'ai une... avec des innovations comme le Pass Navigo, tout ça. Alors, tout ça au sein de la direction industrielle. Et mes dernières années, je les ai faites dans une TPE que j'ai acquis en Lot-et-Garonne, où je fabriquais des groupes motopompes très particuliers, sur mesure pour l'incendie, pour les pétroles. Voilà, donc c'est à peu près 40 ans d'industrie.
Bon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Jean-Étienne, au cours de l'année dernière, vous avez été diagnostiqué pour un cancer de la vessie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels ont été les premiers symptômes et comment a été l'entrée dans la maladie?
Alors, ça a été assez simple. Je me suis aperçu il y a 18 mois maintenant, donc, de saignement dans les urines. Par rapport à un ami qui avait eu des soucis aussi de vessie, ça m'a alerté, bien évidemment, tout de suite. Suite à ça, j'ai consulté mon généraliste, j'ai pris le chemin classique, généraliste qui, lui, m'a fait faire un scanner. Suite à ce scanner, qui n'était pas spécialement bon, j'ai ensuite été orienté vers un urologue. Pareil, réexamen, opération pour aller voir ce qui se passe, étudier un petit peu le phénomène, donc... pour en finalité avoir l'anapate. Donc, effectivement, il y avait polype à la vessie et, a priori, un cancer infiltrant dans la vessie.
Étienne, juste une question. Est-ce qu'il y a eu un délai assez long entre le premier épisode d'hématurie et le rendez-vous chez le médecin généraliste, ou c'est quelque chose qui vous a alarmé de suite, de façon assez stabilisée par ce que vous connaissez de ces symptômes, vous a alarmé?
Alors, ça m'a alarmé parce que je sais que c'est pas anodin comme symptôme. Et là, c'est à commencer la course parce que je sais qu'il faut aller vite. Ce qui a été compliqué, c'est d'avoir des disponibilités rapides au niveau des examens déjà, parce qu'on se bat un petit peu là-dessus. Trouver un urologue et ensuite rentrer dans le système. Donc là, c'est un peu la bataille. Mais bon, ça a été relativement vite. Donc, de début janvier, où j'ai eu ce saignement, où je l'ai constaté, j'ai dû être opéré, voir un petit peu ce qui se passait sur mars, début mars.
D'accord.
Ça fait quand même à peu près 2 mois, avec tous les examens, entre, évidemment, avant, qui ont été nécessaires. Et puis, voilà.
Oui, ça n'a pas quand même trop traîné.
Non, parce que j'ai vraiment poussé à la roue.
Il y a eu la résection transurétrale de vessie, donc ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu le diagnostic d'une maladie infiltrante, et là a commencé un parcours assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel a été ce parcours? Déjà, l'annonce de la maladie, comment ça vous a été annoncé?
Ouais.
Et ensuite, quel a été le parcours que vous avez eu jusqu'à ce qu'après nous, on se rencontre pour la suite?
Alors, l'annonce, elle a été franche et massive, j'allais dire. Donc, C'est-à-dire, quand tout patient qui apprend qu'il a un cancer, évidemment, on prend un coup sur la tête. Avec, dans les jours qui suivent, tout ce qui se passe un petit peu de réflexion, parce qu'on n'est pas tous. D'abord, on est soi-même, et puis il y a une famille derrière. Il y a une famille, on sait qu'on on part sur un espace-temps qui va être compliqué. Et puis après, il faut prendre ça comme un challenge. Moi, je l'ai pris comme ça. Une fois qu'on a un planning, j'allais dire, un tableau de bord, c'est commencer le plus rapidement possible tout ce qui va bien, tout ce qui doit être fait. Voilà.
Donc, vous rappelez donc, qu'il y a deux temps. Le premier temps d'annonce avec finalement un coup de massue, de sidération, on a du mal à comprendre. Et très vite, on essaie de se relever avec un plan personnel.
Alors, ce qui est très important, c'est que moi, je suis asymptomatique. Ça veut dire que, vous savez, pas de douleur, rien du tout. Vraiment, c'est du jour au lendemain, je constate un saignement et on me dit j'ai un cancer.
Et c'est la napate qui vous fait rentrer dans la maladie.
Et c'est la napate, effectivement, qui confirme plus ou moins ce qui était pensé, qui dit, là maintenant, c'est clair et net.
Et donc après ça, vous vous attaquez de la chimiothérapie, ce qu'on appelle néo-adjuvante, avant une chirurgie qui était programmée.
Absolument. Là, donc, rencontre avec l'oncologue, c'est-à-dire, alors pareil, bataille rangée pour avoir un oncologue assez rapidement. C'est important, il faut insister, voilà, et puis mise en place du protocole, un protocole de chimiothérapie sur 3 mois, à raison de, en gros, 3 séances de chimiothérapie de suite, trois fois trois. Une séance assez longue, quand même de un peu plus de 6 heures de perf. Et 15 jours après, une d'une heure et demie, et encore une semaine après, une d'une heure et demie, un temps de repos, et ça, deux fois en suivant, en plus. Voilà. Suite à ce protocole, il y a un temps de repos, j'allais dire, d'environ à peu près, pour ma part, qui était d'environ 2 mois, de façon à être... j'étais en pleine forme. Et ensuite, j'ai eu le grand jour, l'intervention qui a consisté à une ablation de la vessie et puis également de la prostate, puisque dans mon cas, ça va de pair.
Oui. Donc, vous rappelez bien qu'il y a ce délai qui est important à respecter entre la fin de la chimiothérapie et la chirurgie. Où ce délai était un peu limite parce que, justement, vous n'étiez pas initialement suivi dans notre...
Et oui,
on a voulu faire le transfert avec toute une étape au préalable à la chirurgie où vous l'avez dit, où il y a une préparation pour être en pleine forme, ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée, où on en discutera un peu après. Vous, dans votre contexte un peu particulier, on ne va pas y revenir dessus, l'opération a consisté à l'ablation de la vessie des ganglions de la prostate et faire une dérivation urinaire non continente de type briquaire. Comment vous vivez maintenant, Jean-Étienne, comment ça se passe?
Ça se passe pas trop mal. Alors, c'est pareil. Je veux dire, le temps est important. Je le dis, faut être patient. Bon, j'ai appris vraiment la signification du mot patient, parce que il veut dire ce qu'il veut dire, mais il faut le répéter. La base de tout, c'est faut être déterminé, mais patient. C'est clair et net. Une stomie, c'est quand même, on vous enlève un morceau de vous-même. Je veux dire, psychologiquement, intellectuellement, c'est quand même une épreuve. Et puis après, on se retrouve avec une stomie. Une stomie, c'est pas, c'est un deuxième nombril finalement. C'est pas quelque chose de terrible. Et puis il faut apprendre à se regarder aussi. On a peur de se regarder au départ. Ça, c'est important parce que le rapport au corps aussi, il est très très important. Moi, dans mon cas, j'ai pas été ouvert en deux. On en reparlera peut-être, mais il y a eu le robot, il y a eu toutes ces nouvelles technologies techniques qui sont très importantes, parce que voilà. Et on se retrouve avec effectivement quelque chose en plus. Et moi, je dis qu'il faut apprivoiser. Ça veut dire l'accepter. Faut accepter. Et le plus gros problème, pour moi personnellement, psychologiquement, c'est d'accepter qu'il y a eu maladie, parce qu'on a pas, mal. C'est toujours pareil. Je veux dire, c'est insidieux, ça se voit pas. Donc bien rentrer là-dedans, accepter sa stomie, entre guillemets, un petit peu son nouveau corps, entre guillemets. Et puis après, c'est le temps qui fait les choses. C'est-à-dire que évidemment, il y a un suivi après l'opération qui est très important. avec des infirmières, avec l'hôpital de jour aussi, qui est important, hein, tous les gens qu'on voit à tout niveau, qui vous guident. Après, des infirmières également qui vous guident, qui vous apprennent à être autonome le plus rapidement possible, ça c'est important. L'autonomie, elle est hyper importante. Et après, bah, c'est de la technique, on améliore, y a, avec le matériel. Quand on a une stomie, bah, on a une poche. Pour tenir cette poche, il y a un socle, il y a un protocole aussi qui se fait de changement, de tout ça. Donc, ça rentre dans, je dirais, dans une habitude. Comme le matin, on met ses chaussettes, on se lève, on met ses chaussettes. Bah, on va avoir une étape en plus. Voilà.
Jean-Étienne, est-ce que le port de cette stomie actuellement limite dans votre vie quotidienne des choses? Est-ce que ça vous bloque dans des activités, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur
ça? Très concrètement, moi j'ai été opéré début novembre, on est bientôt mi-mai. Au jour d'aujourd'hui, j'ai repris tout ce qui est bricolage, j'ai repris la marche, j'ai repris du jardinage, j'ai repris la moto. Je fais énormément de moto, j'ai repris comme j'étais avant l'OP, hein. Il y a aucun souci là-dessus, hein. J'ai fait 350 km les week-ends dernière moto. Là, on part pour un week-end de 4 jours, on va faire 1000 km. J'ai aucun problème à ce niveau-là, aucun problème. Les problèmes, après, ils sont plus psychologiques, de dire j'ai besoin de faire attention, je prends du matériel un peu en rechange, etc. Ils sont plutôt d'ordre intellectuel et logistique. Mmh. Mais physiquement, très honnêtement, je suis revenu comme dans mes occupations d'avant, hein, y a pas de souci.
Pour les auditeurs, donc on parle bien sûr ici d'un cas spécifique. On sait maintenant qu'il y a de plus en plus de techniques où on essaie de garder la vessie, de conserver la vessie par des rayons. C'était pas possible logiquement, sereinement dans le cas de Jean-Étienne. D'ailleurs, actuellement, ensuite, si on continue un peu à discuter de tout ce qui se passe, il n'y a pas que le problème de la conséquence de la stomie, il y a des conséquences sexuelles, il y a beaucoup de conséquences physiques, notamment aussi liées à la chimiothérapie. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est actuellement, parce que la maladie, et ça on le voit, et le traitement de la maladie n'est pas terminé chez vous, Jean-Étienne, parce que...
Non, je suis...
Actuellement, qu'est-ce que vous recevez comme traitement?
Alors là, je suis parti sur un traitement d'immunothérapie toutes les 3 semaines, et ça pendant 1 an. C'est un protocole assez classique, j'ai cru comprendre. Par rapport à la chimiothérapie qui n'a rien à voir, ça je le précise parce que des fois la chimio, ça se passe plus ou moins bien. Moi, pour ma part, ça s'est bien passé, on n'en a pas parlé, mais grâce à quand même, il y a beaucoup de progrès, des médicaments anti-nauséeux, etc. Vraiment, ça a été très, très bénéfique pour moi. Alors, l'immuno, ça n'a rien à voir. Hein. En termes, ça dure une demi-heure, plus 10 minutes de rinçage, c'est vraiment, et c'est toutes les 3 semaines. Il y a quelques effets secondaires. Pour ma part, j'en ai qu'un. J'ai des démangeaisons, mais c'est quelque chose qui est connu en effet secondaire. Donc bon, bah ça gratte, ça chatouille, ça gratouille. Moi en plus, je fais de l'allergie au pollen et tout, donc ça arrange pas. Mais bon, je veux dire, pas de nausées, pas de mal de tête, pas. Moi, j'ai absolument rien d'autre comme symptôme. Hein, c'est très très léger, hein, voilà. Donc
le but de l'immunothérapie, donc elle est donnée dans une situation après la chirurgie. Le but, c'est ce qu'on appelle le traitement adjuvant. C'est compléter le traitement néo-adjuvant par la chimio opératoire par un traitement d'immunothérapie dont le but est de diminuer le risque de récidive et avec des études qui ont montré que c'était très efficace. Peut-être un dernier point, Jean-Étienne, pour que le propos soit assez concis et clair. Vous l'avez bien mentionné, et finalement, si on se pose un peu sur ce que vous avez dit, le premier symptôme débute sur l'hématurie, on a 2 mois, la résection, l'annonce, 3 mois de chimiothérapie, 2 mois avant la chirurgie, la récupération, l'immunothérapie, on est sur un parcours très long. Et pour avoir un peu discuté avant cette interview avec vous, vous m'avez rappelé que et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, que l'organisation médicale, paramédicale, les soins de support, l'infirmière de coordination sont des éléments qui sont déterminant pour l'accompagnement du patient. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Alors peut-être que vous, c'est vrai, vous n'avez pas tout fait dans le même site, sur le même site, mais peut-être que vous pouvez nous donner un peu ce ressenti parce que vous l'avez plusieurs fois verbalisé, on se sent un peu perdu, on pousse, on cherche.
Oui.
Vous êtes aussi à l'aise, on le voit, vous êtes connecté en visio, c'est pour tous les patients. Donc, on peut aussi s'imaginer qu'il y a des patients qui vont peut-être avoir du mal à accéder à l'information, se dire les maturies, attention, c'est grave, se dire il faut que je me bouge pour trouver un rendez-vous d'un scanner rapide, et puis aussi se trouver un peu perdu parce que la chimiothérapie est mal tolérée ou la chirurgie, les post-op se passent pas toujours comme on veut. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet accompagnement que vous avez vécu et que vous verrez dans l'idéal en termes d'organisation pour le patient?
Alors, oui, c'est effectivement très important. La première phase, c'est quand, effectivement la découverte de la maladie. Là, c'est un peu la panique. Moi, je me suis un peu autogéré. Alors, c'est pas bien quelque part parce que c'est là-dessus. Dans mon parcours, hein, j'entends, mais il y a des choses qui ont beaucoup évolué depuis. La première partie, moi, c'était difficile, mais c'est aussi parce que psychologiquement, on vous annonce pas une bonne nouvelle, hein. Très très mauvaise nouvelle. Bon, à partir du moment où on établit un plan de bataille, là, il y a quand même autour de soi, on sent quand même qu'il y a un accompagnement qui est assez important, et il a été assez important, moi, à partir de la chimiothérapie, où là, on est avec des gens qui ont une empathie formidable, c'est des métiers qui sont très compliqués, mais vraiment au service du patient. J'ai des choses qui se sont mises en place aussi depuis relativement peu de temps. Moi, c'est dans le cadre de l'immuno, à l'endroit où je fais l'immuno, c'est un suivi hebdomadaire. C'est le réseau résilience où on vous pose la question. C'est un petit questionnaire qui arrive en SMS ou en mail, peu importe. On vous pose des questions de base. Est-ce que vous avez mal quelque part? Comment vous sentez-vous, etc. Et j'ai pu le constater, ça réagit très très vite. Donc ça, c'est un soutien qui est énorme. J'en ai pas bénéficié en début de cette histoire, mais je l'ai aujourd'hui et je me rends compte que plus ça sera en amont, mieux les gens sont bien, quoi. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi l'hôpital de jour. On rencontre des gens, on rencontre un ou une stomatologue, évidemment, mais on rencontre aussi un kiné, une diététicienne, un psychologue. On parle effectivement sur de sexe, hein, parce que c'est un élément quand même qui est assez important. Et donc, là, il y a un vrai soutien. Et ça, c'est dans justement ce qu'on appelle l'hôpital de jour, où on voit toutes ces différentes personnes. Et psychologiquement, évidemment, c'est très, très important.
Ce que Jean-Étienne appelle l'hôpital de jour dans son propos, c'est l'évaluation en hôpital de jour préopératoire dans le cadre de la RAC et une réhospitalisation en RAC post-opératoire après la chirurgie, où il revoit un intervenant kiné, diététicien, sexologue, psychologue, somathérapeute, infirmière de coordination, médecin et anesthésiste, le cas échéant. Donc, c'est ça. Mais oui, c'est très important. Et tout ce parcours, le parcours est vraiment long, on insiste sur ça. Se rend compte que les patients vont avoir beaucoup d'interlocuteurs, différentes phases de traitement avec des traitements soit médicamenteux, chirurgicaux, des soins techniques comme les soins de stomie.
Ouais.
Tout ça, et on se rend compte qu'il faut vraiment créer un parcours solide d'accompagnement des patients. Et effectivement, les méthodes connectées comme résilience, il y en a aussi qui se font en périopératoire, plus sur la chirurgie béticaire et autres, sont des éléments qui sont très performants, très bien perçus par les patients et qui sont en plein développement, donc probablement qu'on en aura plus l'utilité par la suite. Mais c'est effectivement ça.
Ah oui, c'est énorme. J'irai plus loin en amont dans ce soutien si c'était quasiment dès le généraliste. C'est-à-dire, pas la première, évidemment, la première visite. Après la première visite, il y a eu un scan. Il y a un scan qui a été déjà un peu révélateur. Le radiologue a été dire, ça me plaît pas, etc. Donc, la deuxième visite chez le généraliste doit, à mon avis, même sans savoir l'importance, mais doit être génératrice de quelque chose.
Vous voulez dire, Jean-Étienne,
D'un suivi, qui est une prise en charge.
Ouais, d'un parcours accéléré.
Ouais, mais vraiment en amont, dès le premier scan, parce que le premier scan, il est quand même, il n'a pas trompé, il a été relativement clair. Et c'est là que derrière un bouton, que généraliste appuie sur ce bouton, avec effectivement un support, que le support commence là.
Ok. Écoutez, Jean-Étienne, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de vous être livré sur votre parcours avec une clarté parfaite.
Mais c'est un plaisir.
Je pense que ça sera très bien perçu. On a besoin de témoignages de patients. Un témoignage, ça reste
bien sûr.
Ça veut dire que c'est votre histoire, elle est comme elle est, mais ça permet aux patients de se projeter, de se comparer, de pressentir les futures étapes à venir.
Voilà,
c'est très enrichissant. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
Eh bien, merci.
C'était Podcast Affût. Retrouvez tous nos épisodes sur le site eurofrance.org.